Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour, cette semaine on va prendre de la hauteur entre Saïgon, Paris, New York, le Sahara et la cordillère des Andes, direction les étoiles, la lune ou peut-être bien la terre. Compagnon de route, Antoine de Saint-Exupéry, écrivain aventurier et poète aviateur.
C'est au cours de cette manœuvre, et déjà hors des nuages, à la cote 400 de mon altimètre, à la cote réelle de 300 environ, que j'emboutis le sol. Quoique dégagé du cumulus, je ne vis rien. J'étais cependant occupé, à cet instant-là, à chercher sous moi des lumières, mais une brume basse et légère répandue sur le désert suffisait à créer l'impression fausse de profondeur. À ma grande surprise, le premier craquement se prolongea dans la cabine à la façon d'un tremblement de terre. Je subissais une secousse ininterrompue, d'une extrême violence, et qui se prolongea pendant 6 secondes environ. L'avion, sur un cheval de bois, s'était bloqué.
L'avion, ça n'est pas une fin, c'est un moyen. Ça n'est pas pour l'avion que l'on risque sa vie. Ça n'est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Mais par l'avion, on quitte les villes et leurs comptables, et l'on retrouve une vérité paysanne. On fait un travail d'homme et l'on connaît les soucis d'homme. On est en contact avec le vent, avec les étoiles, avec la nuit, avec le sable, avec la mer. On ruse avec les forces naturelles. On attend l'aube comme le jardinier attend le printemps. On attend l'escale comme une terre promise et l'on cherche sa vérité dans les étoiles. Moi, je suis heureux dans mon métier. Je me sens paysan des escales. Dans le train de banlieue, je sens mon agonie bien autrement qu'ici. Ici, tout compte fait. Quel luxe! Je ne regrette rien. J'ai joué. J'ai perdu. C'est dans l'ordre de mon métier. Mais tout de même, je l'ai respiré, le vent de la mer. Ceux qui l'ont goûté une fois n'oublient pas cette nourriture. N'est-ce pas, mes camarades? Il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Cette formule est prétentieuse. Les toréadors ne me plaisent guère. Ce n'est pas le danger que j'aime. Je sais ce que j'aime. C'est la vie.
De la vie au roman, Saint-Exupéry a toujours puisé dans ses voyages et ses exploits aéronautiques, matière à ses livres. Disparu en mer à seulement 44 ans, l'auteur du Petit Prince, le livre le plus traduit au monde, après la Bible et le Coran, se taille encore aujourd'hui une place de choix dans le monde des lettres françaises. Une place à part, on peut dire, parce qu'au-delà de sa notoriété, Saint-Ex, comme on l'appelle, a su peut-être faire de sa vie un roman. Avec Thomas Fraisse, auteur d'Antoine de Saint-Exupéry, L'Oasis à conquérir, une biographie sensible parue aux éditions Transboréales, nous allons donc tourner les pages de ses écrits, mais aussi de sa courte et intrépide existence. Thomas Fraisse, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre en préambule l'écrivain raconter d'abord dans une archivina de 1936 un de ses nombreux accidents dans le désert libyen, celui-là, lors de son raid Paris-Saïgon, de sa tentative en 1935. Un événement que Saint-Ex va reprendre, comme il l'a souvent fait dans un de ses livres, c'est Terre des Hommes, et dont on vient d'entendre une lecture également, datant de 1964. Dans cet extrait, Thomas Fraisse, l'écrivain, parle de l'avion comme d'un outil, un moyen. C'était ça, c'était un moyen de découvrir le monde, mais surtout de se lancer dans la vie.
De se lancer dans la vie et de creuser dans le monde. Enfin, c'est ça, c'est la dialectique exupérienne, enfin plutôt le dialogue, parce que Saint-Exupéry disait dans votre extrait « Je n'aime pas les toréadors, donc partant, je n'aime pas l'orgueil ». Et il avait plutôt une rigueur protestante. Donc il avait tendance à promener cheveux au vent en Cadillac, mais ça, là n'est pas le problème. Et justement, Saint-Exupéry est intéressant parce qu'il est homme de paradoxe. Mais oui, l'avion est un outil, et c'est ce que dit Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Il dit « Grâce à l'avion, nous découvrons la vieille nature, celle du paysan, du poète et du navigateur. »
Comme un paysan des
comme
escales.
Un paysan.
C'est une très belle formule.
Oui, mais je trouve ça magnifique, enfin, cette rupture de Saint-Exupéry avec la Tour d'Ivoire est la condition de la validité de sa philosophie.
Oui, parce qu'il faut quand même le dire, Saint-Exupéry vient d'un milieu d'aristocrate. Ça tranche justement avec cette figure du paysan qu'il convoque souvent dans ses écrits. Il était plutôt bien né.
Il était plutôt bien né, enfin bien né, tout dépend ce qu'on entend par là. Enfin, il a perdu son père quand il avait 4 ans, il a perdu son frère par la suite, il a perdu des sœurs, il a perdu tout le monde. Et la particularité de la pensée d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est à la commissure entre la poésie et la philosophie, c'est qu'il s'affronte à ça. Et qu'il n'est pas dans une, il n'est pas dans une écriture qui se regarde écrire. Et
mais se lancer dans la vie, c'est aussi se confronter à la mort.
C'est se confronter à la mort, véritablement. C'est se confronter à la mort. Saint-Exupéry, ce que je pense de sa vie, ce que j'en estime pour avoir vécu des expériences sensibles à la sienne, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je suis aussi sensible à sa pensée, eh bien, c'est que d'être déjeté hors de la vie, eh bien, vous êtes obligé d'entreprendre, de construire des ponts. Et Saint-Exupéry, n'étant pas géomètre, eh bien, a dû apprendre des techniques pour retourner vers la vie. Le poète connaît mieux que quiconque la réalité de la danse puisqu'il s'en s'est privé.
Et alors, pour revenir à son enfance, Saint-Exupéry est né en 1900. C'est un enfant du début du XXe siècle, confronté donc à la mort, aux guerres, de fait, qui est né dans ce milieu aisé. Et quand même très préservé.
Un milieu vraiment très préservé. Enfin, sa mère avait des principes d'éducation rousseauiste. Chacun des enfants faisait de la musique, était invité à écrire de la poésie et du théâtre. Ensuite, il a eu la chance d'être hébergé chez Yvonne de Lestrange, qui était une de ses cousines, et de rencontrer les éditeurs et les auteurs de chez Gallimard. Donc effectivement, il a eu beaucoup de chance. Mais il a eu l'intelligence de se rendre compte qu'il y avait autre chose en fait.
Un lieu tel un Éden est fondateur dans la vie du petit Antoine, comme dans celle du grand d'ailleurs. C'est la maison familiale de Saint-Maurice dans l'Ain. Souvenir avec Gabrielle Daguet, la sœur d'Antoine de Saint-Exupéry, dans une archive INA de 1950.
Un des plus doux souvenirs que je garde de mon enfance partagée avec mon frère Antoine et celui des vacances communes que nous passions dans cette propriété de l'Ain si chère à nos cœurs et dont il parle dans ses livres. Déjà à cet âge-là, Antoine avait une autre vision de la terre que celle des enfants de son âge. Nous les petits, nous l'attendions comme le Messie, et le jour de son arrivée du collège, notre joie n'avait plus de bornes. Que de jeux nouveaux allions-nous entreprendre pendant ces 2 mois de vacances? Notre champ d'exploration, après les bosquets de lilas et les sapins du parc, était le grenier. Je le vois encore, rempli de toiles d'araignées et de meubles cassés, qui nous semblaient d'inestimables biens. Antoine, toujours en tête, avec sa tignasse blonde et son nez en l'air, en quête d'un trésor caché. Il nous avait si bien entrepris à propos de ce trésor que nous étions sûrs de le découvrir un jour. Il nous faisait découvrir le monde et nous disait « quand je serai un grand explorateur ». Un jour, et ce fut un grand jour, Antoine découvrit une petite porte qui donnait sur les toits. De notre perchoir, nous pouvions surveiller le jardin, le potager, une partie du village. Notre domaine n'avait plus de bornes.
Thomas Fraisse, l'enfance pour Saint-Exupéry, c'est un pays, un oasis aussi peut-être ?
C'est les deux, c'est justement l'espace d'une mélancolie et d'une quête en fait. C'est construisons ce que nous n'avons plus, c'est ça. Et pour Saint-Exupéry, l'enfance c'est ça. Donc bien sûr, il y a un processus d'idéalisation et de réécriture et qui a aussi été encouragé par ses sœurs et d'ailleurs par l'idéalisation que sa mère avait pour son fils.
Enfin, qu'elle surnomme. Ils avaient une relation très très forte,
très fusionnelle, on peut dire très fusionnelle. Et d'ailleurs, sa mère le surnommait quand même le Roi Soleil. On le surnommait le Roi Soleil en raison de sa blondeur déjà, mais aussi...
Parce qu'il régnait en maître aussi sur la fratrie, sur la famille...
C'est ça, et aussi, je pense, pour son minois, parce que c'était un enfant, mais Saint-Exupéry a la particularité d'avoir un regard très particulier et un visage très particulier. Et même sa voix, qui est passée au début, est vraiment très particulière. Et je pense que c'est pour ça aussi, il est... Voilà, et c'est un de ses amis dans le groupe de combat de 233 disait « Saint-Exupéry était toujours où on ne l'attendait pas. Il n'était pas habillé comme tout le monde, il ne parlait pas comme tout le monde, il ne ressemblait pas à tout le monde. » Eh bien, je pense que c'est pour ça aussi. C'est cette espèce d'incompréhension qu'avait toute sa famille pour lui.
Et alors à l'époque, il invente donc des jeux, il écrit des vers déjà, il construit aussi des machines.
Oui.
C'était un inventeur déjà.
C'était un inventeur, donc déjà ça s'est révélé par la suite parce qu'il était, il a déposé à peu près 35 brevets d'invention en France. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, on lui a demandé de rentrer au CNRS au vu de ses capacités en mathématiques et en invention. Mais à l'époque, c'était surtout construire un modèle d'aéroplane qui consistait à accrocher les draps de la gouvernante sur une bicyclette et bien sûr pour finir par heurter le mur du fond du jardin avec les dégâts qu'on peut imaginer sur Antoine, ses frères et ses sœurs et aussi sur la bicyclette. Mais voilà, donc il avait...
Donc c'est le premier avion en quelque sorte.
C'est le premier avion et après il y a bien sûr l'aérodrome d'Ambérieux où là il va rentrer dans les réalités aéronautiques. Et c'est une chance inouïe, et c'est d'ailleurs une chance due au hasard, parce que, vu le nombre d'aérodromes à l'époque, c'est vraiment un hasard exceptionnel que son château familial ait été placé juste à côté d'un aérodrome, mais qu'il le suivra. Par la suite, quand il sera en pension à côté de Fribourg, il assommera ses congénères par des poèmes sur l'aviation, et il y a véritablement une fascination, et il y a une concomitance entre le parcours d'aviateur de Saint-Exupéry et son parcours d'écrivain.
Et donc, il avait besoin de voyager pour écrire et il avait besoin de voler, surtout.
Il avait besoin de voler, mais sachant que aucune vie ne se prépare. Enfin, si les vies se préparent, mais elles ne se prévoient pas. Quand il dit « je sais que je n'aurai pas le droit de parler d'un autre que moi, puisque cet autre que moi, je le bâtis ». Donc, il a fait des choix qui sont plus des choix de casse-cou et des choix presque virilistes, on pourrait dire, finalement. Il y avait un peu de ça, quand même. Il y avait un peu le goût du danger... Et pour autant, quand il a commencé à survoler le Sahara, eh bien, il l'a écrit du haut de nos trajectoires rectilignes. Nous découvrons le soubassement essentiel, l'assise de roc, de sable, sur laquelle, quelquefois, la vie se hasarde à fleurir comme un peu de mousse au creux des ruines. Eh bien, c'est là que s'ancre sa philosophie. Donc la nécessité et la richesse de la philosophie de Saint-Exupéry provient véritablement de son expérience aérienne. Saint-Exupéry a pensé... la chance qu'il avait d'être un des seuls à survoler le monde et être en capacité de l'écrire. Ce qui est particulièrement étonnant parce que il a été un des premiers à avoir cette expérience aérienne qui aujourd'hui nous est commune, mais qui à l'époque était vraiment très très rare, d'autant quand il a commencé.
Et c'est l'Aéropostale qui va le lancer dans les airs de Toulouse, Rabat, Casablanca, Dakar jusqu'à Buenos Aires.
Les pilotes de l'Aéropostale, grâce aux avions Latéco Air, ont créé les routes aériennes que nous connaissons aujourd'hui. Au départ, il ne s'agissait que de transporter des sacs de courrier. Mais pour arriver jusqu'au Chili, il fallait d'abord atteindre l'Espagne, puis le Maroc. Prochaine étape, le survol du désert pour arriver à la pointe de l'Afrique, Saint-Louis du Sénégal. À ce moment, le transport du courrier devient une épopée et rentre dans la légende. Les hommes de Didier Dora, le patron de chez Latéco Air, affrontent les tempêtes de sable, les tribus insoumises et parfois ils laissent leur peau. Saint-Exupéry y était, il le raconte.
Partis à Londres de Dakar, nous remontions ainsi d'escale en escale vers Casablanca. Sur 2500 km, la panne risquait d'être mortelle et le fut parfois pour nos camarades.
Lorsqu'en 1927, Antoine de Saint-Exupéry arriva aux lignes aériennes Latéco Air, ses qualités de pilote, sa vive intelligence, son attirante et forte personnalité le classèrent d'emblée parmi nos sujets d'élite. Il eut sa place dans cette admirable phalange de pilotes, Mermoz, Guillaumet, Rigel, Rennes, Étienne, qui donnèrent le meilleur d'eux-mêmes et jusqu'à leur vie pour notre cause. Après avoir assuré les courriers de Toulouse à Port-Étienne, il fut désigné pour diriger l'escale de Cap-Juby, le point le plus délicat du secteur de la côte saharienne.
Thomas Fraisse, Saint-Exupéry a rejoint en 1926 cette folle aventure de la compagnie Latéco Air, devenue ensuite l'Aéropostale. Est-ce qu'il s'y est senti tout de suite à sa place parmi ces chevaliers du ciel, comme on les a appelés? Vous parliez d'une espèce de compagnonnage ou une recherche comme ça un peu viriliste. Dans l'Aéropostale, il l'a trouvé.
Oui, je pense qu'il s'y est senti à sa place et qu'il s'y est d'autant plus senti à sa place qu'on ne l'a pas ménagé. Enfin, c'est Rennes, le pilote, qui disait de lui à Cap-Juby qu'il était un peu le reine d'Angleterre. Et justement, je pense que c'est un peu une camaraderie, voilà, c'est ça. On moque gentiment, mais c'est aussi que ce sont des hommes qui, comme il est dit, risquent leur vie très régulièrement. Et c'est pas qu'une image, enfin.
Ah oui, c'était très périlleux. On a du mal à imaginer, mais pour transporter du courrier, il y avait des accidents, des kidnappings, des morts.
Oui, et d'autant plus quand on a essayé de transporter des passagers à la place du courrier. Enfin, parce que la particularité, il y avait des zones de pression atmosphérique qui étaient plus basses, et ce qui faisait que parfois l'avion chutait de 300 mètres, notamment pendant les survols de l'Espagne. Et il est arrivé à un pilote de l'aéropostale d'avoir à la place du copilote un passager. Et à l'époque, les pilotes n'étaient retenus que par des sangles de cuir à leur fauteuil. Et donc le pilote a été pris dans une de ces zones de pression plus basse et il a chuté de 300 mètres et il a lutté pour redresser l'avion. Une fois, après avoir redressé l'avion, il s'est retourné et il a vu que les sangles de cuir étaient déchirées et que le passager était parti. Il y a le kidnapping de Mermoz, il y a les pilotes qui sont rendus à l'aéropostale en ayant la gangrène. Donc effectivement, c'est très dangereux et chaque pilote effectivement risquait sa vie, et notamment... L'avion de l'époque, c'est le Breguet 14. C'est le Breguet 14 qui est un avion de la Première Guerre mondiale. Et il faut savoir que pour un vol Paris-Dakar, on compte une panne pour 6 vols aller-retour. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 6 de vous écraser quand vous vous envolez. Et le Breguet 14, d'ailleurs, est devenu légendaire au vu de ses pannes, davantage qu'au vu de ses qualités d'ingénierie. Donc... Non, c'est vraiment un métier périlleux et ça plaira à Saint-Exupéry. C'est justement
oui, il y avait quand même ce côté risque tout où il tutoyait la mort à chaque fois qu'il prenait les airs.
Oui, et c'est aussi que c'est ce voisinage avec la mort qui donnera une valeur à la vie. Enfin, il y a un peu un côté Fort Alamo en fait, je pense. Nous sommes assiégés et nous sommes non pas les remparts de la civilisation, mais les chevaliers du progrès. Parce que l'aéropostale, ce qu'il convient de dire aussi, c'est que c'était un pari sur l'impossible, que personne n'aurait osé le tenter, mais on est bien obligé de dire ça, et pourtant quelqu'un l'a tenté. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que dit Saint-Exupéry sur le pari de l'aéropostale, c'est véritable. Quand Dora lui dit « vous êtes des ouvriers ».
Didier Dora, qu'on a entendu à la fin de l'extrait sonore, qui était le chef d'exploitation de la ligne.
De la ligne, voilà, et qui était un ancien officier de la Première Guerre mondiale, et qui en plus d'être officier, était vraiment quelqu'un qui avait souffert au front. Et Didier Dora, quand il dit « vous êtes des ouvriers, vous êtes des bâtisseurs de cathédrales », eh bien effectivement, ce sont des bâtisseurs des cathédrales. Et le rêve de Pierre-Georges Latécoère, c'est bel et bien de relier les continents. Et par exemple, quand on a réussi à relier l'Amérique latine à l'Afrique ainsi qu'à l'Europe, eh bien, ça a fait que le courrier, au lieu de mettre 3 semaines à parvenir à faire Buenos Aires-Paris, eh bien, il ne mettait plus qu'une semaine. Et donc, on imagine ce que ça représente pour les liaisons commerciales et pour les liaisons humaines. Et c'est pour ce rêve-là que l'aéropostale et que Saint-Exupéry se battent.
Alors, cet esprit de l'aéropostale, cette camaraderie, ce sens du devoir aussi et de l'action, mais aussi la rencontre avec le désert, on en reparle dans la deuxième partie de Si loin, si proche. Tout de suite, place aux Nouvelles du Monde, on se retrouve juste après, toujours en compagnie de Thomas Fraisse à travers les multiples géographies de Saint-Exupéry, et on y croisera peut-être un curieux petit prince.
Si loin, si proche, le magazine des voyages.
Aujourd'hui, auditeurs amis, nous allons vous parler d'un grand aviateur disparu sans laisser de trace, de Saint-Exupéry.
Parce que la Terre, écrivait-il, nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, on continue justement de la parcourir cette Terre, à la rencontre d'Antoine de Saint-Exupéry, la tête dans les étoiles et ses livres sous le bras. Pour nous guider, on est toujours avec Thomas Fraisse, auteur d'une biographie, Antoine de Saint-Exupéry, l'Oasis à conquérir, géographie sensible dans le mouvement du monde, cap sur l'Afrique et sa mer de sable.
Saint-Exupéry, lui, était à ce moment-là chef de l'aéroplace du Cap Juby, qui était un pénitencier espagnol en plein Sahara. Et il était déjà fameux, pas du tout comme écrivain, parce qu'il n'avait rien publié quand je suis passé sur la ligne, mais par son comportement singulier de rêveur, de poète. Il vivait habillé d'une gandoura toute la journée, il volait, il allait se poser dans le désert, il voyait un aérolithe, et il montait dessus, fumait sa pipe, rêvait. Ou alors, il avait inventé, pour faire des dépannages, de faire ce que jamais les Arabes n'avaient fait, du chameau un animal de trait. Il avait réussi à construire une charrette à deux roues que le chameau traînait à travers le désert. Bref, il était connu plutôt comme un original.
Thomas Fraisse, vous avez sûrement reconnu la voix d'un autre illustre écrivain français, féru lui aussi d'aventure. C'est Joseph Kessel.
Ah oui, c'est Joseph Kessel.
Alors lui qui a été le premier passager de la ligne aéropostale, cette ligne mythique, on en a parlé, qui reliait Toulouse à Santiago via des escales situées sur les côtes africaines puis sud-américaines. Et parmi ces escales, il y avait Cap Juby, dont parlait Joseph Kessel, aujourd'hui Tarfaya, situé dans le sud marocain. Là où, comme il a dit, dans un drôle de fortin battu par les vents et la mer, officiait Antoine de Saint-Exupéry en 1927. On a envie de dire, drôle d'endroit et drôle de bonhomme aussi, quand on écoute Joseph Kessel en parler.
Les deux, ce sont des drôles de bonhommes. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des parcours très proches, en fait. La singularité de l'un marque la singularité de l'autre, notamment quand Kessel dit de Cap Juby, c'était un des lieux désolés et maudits du monde, tandis que Saint-Exupéry écrivait à sa mère, j'ai passé là les meilleures années de ma vie. Et c'est là qu'on voit le message de Saint-Exupéry apparaître en transparence, c'est qu'en fait, Saint-Exupéry nous montre le primat du regard sur le monde. Cap Juby, c'est une langue de sable prise entre le désert...
C'est aux portes du Sahara.
Et l'Atlantique.
Et l'Atlantique.
Voilà, c'est battu par les vents, c'est battu par les vagues. Saint-Exupéry disait, sans se plaindre d'ailleurs, il disait... J'ai la mer sous moi qui tape toute la nuit des coups de boutoir sous ma fenêtre. Donc c'était vraiment terrible. Et d'ailleurs, les officiers espagnols qui étaient amenés à être mutés à la Casa del Mar, eh bien, devenaient fous, en fait.
Parce que c'était aussi situé dans un protectorat espagnol, au Maroc. Mmh. Et il y avait effectivement cette Casa del Mar, et puis cette escale aéropostale, où effectivement les avions, de temps en temps, pas si souvent finalement.
Une fois par semaine à peu près.
Donc il y avait quand même aussi une grande solitude, qu'on ressent en tout cas dans ce que décrit Kessel, et qu'on peut aussi percevoir à travers les écrits de Saint-Exupéry.
Oui, une grande solitude, et justement... on arrive à la leçon du désert saharien et du Petit Prince, qui est apprivoisé. Et justement, Saint-Exupéry, dans cette solitude, en vient à la nécessité de la rompre et donc de rentrer en contact avec le monde qu'il a autour de lui. Et donc, il fait l'expérience de l'autre.
Et d'écrire aussi, puisque c'est aussi à Cap Juby qu'il va écrire son premier roman, Courrier Sud.
Courrier Sud, oui. Son premier roman, façon de parler, parce qu'ensuite, la plume de Saint-Exupéry va s'affiner... Et heureusement d'ailleurs.
Et alors c'est aussi là qu'il va apprivoiser le désert. Mais avant de nous plonger dans les immensités du Sahara, partons, si vous le voulez bien, Thomas Fraisse, cette fois, de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Argentine, là où d'autres exploits attendent Saint-Exupéry.
De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy
Avec Carlos Gardel, on prend pied maintenant en Argentine, dans l'Argentine des années 30, là où Saint-Exupéry va officier en tant que chef de la ligne aéropostale Argentina.
C'est une bonne place pour un homme de mon âge, n'est-ce pas? Et c'est ce que Saint-Exupéry disait à sa mère pour dire quand même, à mon âge, avoir ce poste-là.
Parce à que 29 c'est... ans.
Ah voilà, c'était vraiment c'était un poste de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui cadre supérieur et il était vraiment le chef sur place, enfin, comme son titre le disait. Et il était responsable de l'acheminement du courrier et c'est vraiment une confiance qui lui a été faite par Didier Dora et ça rejaillit sur sa légende. Voilà, quand on dit de Saint-Exupéry que c'était un mauvais pilote et finalement quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter, ne serait-ce qu'au point de vue de l'aviation, eh bien, il y a beaucoup de pilotes de l'aéropostale qui sont morts en acheminant le courrier et Saint-Exupéry, étrangement, était le plus mauvais et il n'est pas mort en acheminant le courrier dans le Sahara. Et c'est là qu'il va se révéler encore plus au contact d'une nature qui est totalement différente et qui va lui permettre d'approfondir sa leçon, justement.
Alors, quand il arrive à Buenos Aires, il n'est pas conquis au départ.
Il n'est pas conquis au départ et il n'est pas conquis après non plus. Ce par quoi il est conquis, ce sont les paysages, c'est son survol aérien.
Qu'il décrit magnifiquement,
oui,
notamment dans Vol de nuit.
Je ne sais même pas si le mot est adapté, enfin, c'est même pas magnifiquement. Il y a un vécu, il y a un sentiment de nécessité derrière les paroles de Saint-Exupéry. En soi, c'est magnifique, mais il écrit à sa mère sur Buenos Aires, il dit... Ça me fait l'effet d'un gâteau mal cuit, c'est une immense cité de ciment. Et ce qui va lui permettre de tolérer Buenos Aires, ce sont les animaux, encore une fois, parce que il va en ramener dans son appartement de Buenos Aires, et c'est Consuelo Sunsin qu'il va rencontrer dans ce pays également. Quand Saint-Exupéry écrit dans Le Petit Prince, parce qu'il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples avec une rangée de pétales, et Saint-Exupéry rajoute, elle ne dérangeait personne, elle naissait au matin et le soir, elle s'éteignait. Et il dit, par contre, il y a une fleur qui avait germé d'une graine venue d'on ne sait pas où et qui un jour est arrivée. Et bien, c'est un effet de sidération. Un effet de sidération et...
Cette rose.
Cette rose. Et moi, je défends justement la similarité des parcours entre Consuelo Sunsin et la rose telle qu'en parle le Petit Prince.
Donc sa future épouse.
Oui.
À qui il dit, quand il la rencontre, alors qu'elle s'apprête à partir, c'est ce que vous racontez dans votre biographie, celle de Saint-Exupéry, venez avec moi, je vous ferai voir les étoiles.
Et effectivement, Saint-Exupéry lui a dit, viens, je te ferai voir des étoiles, parce qu'il était épris des étoiles et parce que... Et parce qu'il était encore enfant. C'est-à-dire, il ne percevait pas finalement comment ces paroles pouvaient être interprétées. Et je ne pense même pas... Enfin, Saint-Exupéry était d'une stature assez imposante. Et je ne pense même pas qu'il se percevait tel. On imagine la réaction qui a dû être celle de Consuelo Sunsin quand elle a vu cet ours lui dire ça. Enfin, moi, j'en parle souvent parce que ça me fait rire, justement. Et ça marque la bizarrerie d'Antoine de Saint-Exupéry, finalement. Et ce qui marque, par contre, son humanité... C'est que Consuelo Sunsin, malgré ça, est accepté de partager sa vie avec lui, ce qui était inespéré au vu de la manière dont commençait l'histoire.
Une vie d'errance, une vie d'aller-retour, puisque après cet épisode argentin, il rentre à Paris, il devient alors reporter, ce qui est assez nouveau pour le journal L'Intransigeant notamment, et les temps à l'époque sont troublés, on quitte les étoiles en 1936, il part au chevet donc d'une Europe malade, de ses nationalismes et ses leaders, Franco en Espagne, Hitler en Allemagne. Comment justement Saint-Exupéry voit-il l'émergence de ce qu'il appelait ses idoles carnivores ?
Le problème déjà, c'est qu'il voit cette émergence. Enfin, il ne fait pas partie de ces hommes politiques qui essayent de dresser un barrage contre le Pacifique. Justement, il est d'abord hébété par les boucheries qu'il voit et par la bêtise.
En Espagne notamment.
En Espagne, enfin.
Ouais, en Espagne.
Mais ce que dit Saint-Exupéry, et sa parole d'humanité est une parole qui est mécomprise, quand il dit, bien sûr, d'un côté, il y a... les franquistes qui massacrent des républicains, mais de l'autre côté, il y a des républicains qui massacrent des nonnettes. Les collaborations du clergé sont ce qu'elles sont. Toujours est-il que les nonnettes n'avaient rien demandé à personne.
Et il est au-delà des idéologies, c'est ce que vous dites.
Mais en plus d'être au-delà des idéologies, c'est le penseur et c'est le critique de l'idéologie. J'oserais même dire que c'est le penseur de notre époque, parce que ce que dont pâtit notre époque, c'est l'oblitération de la liberté humaine par l'idéologie, l'écrasement de notre capacité à penser par du prêt-à-penser. Et Saint-Exupéry, c'est ça finalement. Et ce qui est intéressant, c'est sa philosophie justement d'apprivoiser, sa philosophie de dire « l'homme n'est qu'un nœud de relation », eh bien, ça va lui permettre d'accéder à une vérité plus grande et de se nourrir des contradictions du monde.
Et en parlant de philosophie, Saint-Exupéry a beaucoup puisé dans le désert, un désert qu'il a habité, on en a parlé à Cap-Juby, un désert aussi dans lequel il a été accidenté, ce fameux accident dont on a parlé au début de l'émission en 1935, avec son mécanicien Prévost, et dont ils sortent d'ailleurs tous les deux miraculeusement indemnes, et qu'il va raconter dans Terre des Hommes. Et qui va faire peut-être, je ne sais pas, passer Saint-Exupéry de l'homme au héros, presque. Ça va lui donner une autre stature, en tout cas dans l'opinion publique.
Oui, c'est véritablement ça. Mais je dirais plutôt que Saint-Exupéry passe du héros à l'homme. Parce que justement, la rencontre avec le Bédouin de Libye, c'est l'établissement en Saint-Exupéry de son humanité.
Parce que c'est ce Bédouin qui le sauve, puisqu'il faut reprendre la petite histoire. Oui. Donc après plusieurs...
5 jours à peu près de marche dans le désert.
Après... Il croise ce fameux Bédouin, qui aurait pu ne pas tourner la tête, et finalement, il va les sauver. Donc c'est l'humanité qui prime, en fait.
C'est l'humanité qui prime, comme elle primait chez d'autres. Enfin, le pacifisme forcené de Jean Giono, c'est celui-là. Enfin, justement, lui... quand il voyait dans les jeunes gens engagés dans la Wehrmacht contre leur gré des jeunes gens qu'il voulait accueillir en toute humanité. Donc finalement, il y a un parcours qui n'est pas gémellaire, mais qui en tout cas est apparenté entre celui de Giono et celui de Saint-Exupéry. Et c'est l'humanité qui prime et c'est l'autre qui prime. C'est justement ce moment où il y a une indétermination entre soi et l'autre. Saint-Exupéry dit « nous ne sommes qu'un nœud de relation ». Ce qu'il comprend par là, c'est qu'il dit « je ne peux pas me penser moi-même si je n'ai pas accès à l'autre ». Et donc, le Bédouin de Libye, effectivement, c'est une promesse. À la fois, c'est un sentiment qu'il a au moment où il le voit, et c'est un pacte qu'il fait avec lui-même quand il écrit « tous mes amis, tous mes ennemis, en toi marchent vers moi, et je n'ai plus un seul ennemi au monde ». Et c'est proche du geste de l'écriture de Citadelle quand il se promet de dépasser justement les clivages et les idéologies et de fonder un langage qui soit capable de rassembler les hommes.
Et à partir de cet accident et de cette rencontre avec le désert et le Bédouin, il ne va plus jamais oublier le désert, mieux il va le célébrer et l'écouter. Lettre à un otage de Saint-Exupéry, 1943.
J'ai vécu 3 années dans le Sahara. J'ai rêvé, moi aussi, après tant d'autres, sur sa magie. Quiconque a connu la vie saharienne, où tout, en apparence, n'est que solitude et dénuement, pleure cependant ces années-là comme les plus belles qu'il ait vécues. Les mots « nostalgie du sable », « nostalgie de la solitude », « nostalgie de l'espace » ne sont que des formules littéraires et n'expliquent rien. Or voici que, pour la première fois, à bord d'un paquebot grouillant de passagers entassés les uns sur les autres, il me semblait comprendre le désert. Certes, le Sahara n'offre à perte de vue qu'un sable uniforme, ou plus exactement, car les dunes y sont rares, une grève caillouteuse. On y baigne en permanence dans les conditions mêmes de l'ennui. Et cependant, d'invisibles divinités lui bâtissent un réseau de directions, de pentes et de signes, une musculature secrète et vivante. Il n'est plus d'uniformité. Tout s'oriente. Un silence même n'y ressemble pas à l'autre silence. Il est un silence de paix quand les tribus sont conciliées. Quand le soir ramène sa fraîcheur et qu'il semble que l'on fasse halte, voile repliée dans un port tranquille. Il est un silence de midi quand le soleil suspend les pensées et les mouvements. Il est un faux silence quand le vent du nord a fléchi et que l'apparition d'insectes, arrachés comme du pollen aux oasis de l'intérieur, annonce la tempête d'est porteuse de sable. Il est un silence de complot quand on connaît d'une tribu lointaine qu'elle fermente. Il est un silence de mystère, quand se nouent entre les Arabes leurs indéchiffrables conciliabules. Il est un silence tendu, quand le messager tarde à revenir. un silence aigu quand, la nuit, on retient son souffle pour entendre. Un silence mélancolique si l'on se souvient de qui l'on aime.
Thomas Fraisse, cette rencontre avec le Sahara, on l'a dit, est fondatrice pour Saint-Exupéry, pour son œuvre, pour son regard aussi peut-être.
Oui, je dirais véritablement, quand il passe une nuit dans le fortin de Nouakchott et qu'il écrit « Ici finit le monde sensible et commence le clair de lune où rien n'est bien vrai », eh bien, ces mots sont à prendre au pied de la lettre. Et justement, c'est se rendre compte qu'il a une prise sur le monde et ça rejaillit sur toute sa philosophie, sur ses considérations quand il dit que quand une seule chose pour l'homme, c'est le sens des choses, eh bien, il en accède à une lisibilité du monde et qui est fidèle à sa promesse d'enfance. C'est plutôt un rêve, en fait. Derrière l'apparence des choses, il cherchait autre chose. Il en cherchait la nécessité, la lisibilité, et il cherchait finalement une nécessité au monde. Parce qu'il y a une nécessité au monde.
Ce qu'il a appelé le sentiment de l'étendue.
Oui, c'est élargir son être. Et justement, il y a un vécu cosmique de son être.
Oui, parce qu'il y a un côté comme ça, magique aussi, féerique. Mais il va puiser là-dedans, évidemment, pour aller vers ce petit prince, justement.
Oui, et cette nécessité, il la lit aussi bien en lui-même que dans le monde, et il la lit justement dans ce dialogue incessant entre lui et le monde.
Et peut-être aussi dans les étoiles. Mmh. Tout de suite sur RFI, trois musiciennes, Touareg, les filles de Ili Haddad avec Imi Gladan.
Seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein?
Dessine-moi un mouton.
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Mais
Qu'est-ce que tu fais là?
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Première ligne du Petit Prince et scène mythique d'une rencontre entre un aviateur perdu dans le désert et un petit bonhomme devenu une icône à travers le monde, Thomas Fraisse. Est-ce que vous, vous êtes entré dans sa littérature comme beaucoup d'entre nous, enfant, à travers ce conte illustré du Petit Prince? Vous me dites non de la tête.
Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai découvert Saint-Exupéry avec Terre des Hommes. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est qu'il existait des livres qui faisait qu'on sautait sur son canapé toutes les deux phrases. Je le lisais.
Avec une jubilation.
Avec une. Non, même pas. Oui, une jubilation et une espèce d'emphase à partager avec l'autre. Et j'ai par exemple découvert les poèmes de Char à la Bibliothèque nationale de France. J'avais ressenti la nécessité de me lever sur la table et de dire aux gens: écoutez ce que cet homme dit. Et j'ai eu le même sentiment quand j'ai lu Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'est par ce biais-là que je l'ai découvert.
Donc pas Le Petit Prince?
Pas Le Petit Prince, non, que j'ai découvert beaucoup plus tardivement et dont je pense d'ailleurs qu'il est utile et intéressant aussi de le découvrir tardivement.
Parce qu'il a souvent aussi éclipsé le reste de l'œuvre de Saint-Exupéry.
Ce qui est parfaitement dommage, d'autant plus que pour moi c'est le reste de l'œuvre qui rend lisible Le Petit Prince, bien que dans Le Petit Prince il y a tout de la leçon de Saint-Exupéry qui se voit. Du début jusqu'à la fin, justement, du « dessine-moi un mouton » et justement, les moutons véritables ne satisfaisant pas.
On revient au paysan, à l'animal aussi.
Oui, il y a de ça. Et justement, au rapport de l'homme au monde aussi. Quand il fabrique cette caisse et qu'il dit à l'autre « débrouille-toi avec ton regard, débrouille-toi avec ce que tu veux faire du monde ». Ce qui est marquant dans Saint-Exupéry et ce qui est touchant, c'est que c'est un des derniers spiritualistes dans un monde matérialiste. Et c'est aussi pour ça que sa littérature est finalement déconnectée des littératures de l'époque.
Alors revenons à des choses matérielles, statistiques. Le Petit Prince affiche quand même des records. 400 millions de lecteurs, 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde et 300 traductions, la dernière étant Hassaniya, un arabe dialectal mauritanien. Donc c'est un phénomène planétaire. Lui, Saint-Exupéry, ne connaîtra pas réellement l'ampleur, puisque déjà, ce livre, ce conte illustré par lui-même, par ses aquarelles, ne sera publié en France qu'en 1946, après sa mort.
Mais il ne le connaîtra pas du tout, et d'ailleurs c'est une écriture testamentaire. Enfin, ce qui d'ailleurs est étonnant, c'est que ce livre est vecteur de joie et d'émerveillement pour les gens qui le lisent. Et pour autant, Saint-Exupéry était au comble du désespoir quand il l'a écrit.
Parce qu'il l'a écrit depuis New York, à l'époque où il est exilé.
Et où il pâtit.
Parce que c'est la guerre en France, la France a capitulé. Et lui qui a servi est aujourd'hui démobilisé. Comment est-ce qu'il voit la guerre justement depuis cet exil new-yorkais? Il trépigne
et il trépigne d'autant plus que Léon Woerth, qui est celui auquel il a dédié le Petit Prince, ou plutôt à l'enfant qu'avait été Léon Woerth, il le sait caché dans une cave, certainement en Savoie, parce qu'il est juif. Et en fait, Saint-Exupéry, pour qui l'amitié est une valeur cardinale, eh bien, imagine son ami peut-être mort, et pour lui, c'est absolument terrible. Saint-Exupéry, en fait, quand il est parti aux États-Unis, il y est parti parce qu'il s'est dit « j'ai une carte à jouer ». Et effectivement, il a eu une carte à jouer parce qu'il a fait beaucoup d'émissions radiophoniques pour tenter d'alarmer l'opinion publique américaine.
Parce qu'il voulait mobiliser
sur la nécessité de l'engagement. Ce qu'il entend de la guerre, c'est « nous allons être incapables de la gagner si les États-Unis ne s'engagent pas avec nous ». Et c'est pour ça qu'il fait ce périple américain.
Et que lui, ensuite, va se jeter à nouveau dans les airs. Dans cet engagement, il ne pouvait pas ne pas prendre part à cette guerre.
Oui, à tel point qu'il a fait faire des faux certificats médicaux à des médecins pour avoir le droit de s'enrôler.
Oui, parce qu'il est cabossé de partout du fait de tous ses accidents. Il est déclaré inapte.
Oui, il est trop vieux en plus.
Donc il veut rejoindre les forces françaises qui sont, elles, basées en Afrique du Nord, c'est ça? Puis en Corse ensuite. Et il y arrive, finalement.
Il y arrive, oui, parce qu'il a la volonté d'y aller et aussi parce qu'il fait marcher tout ce qu'on pourrait appeler des pistons. Il fait marcher tous les pistons pour pouvoir s'engager. Et il écrivait « Seul a le droit de parler celui qui participe ». pour lui, Saint-Exupéry, si ses copains d'enfance s'engageaient pour combattre, eh bien, il devait y aller aussi.
Et donc, le 30 juillet 1944, Saint-Exupéry disparaît en mer, dans des conditions qui sont restées longtemps mystérieuses, un peu moins aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, Thomas Fraisse, est-ce que vous diriez de Saint-Exupéry qu'il est encore de notre temps? Je devine que oui, bien sûr, étant donné l'élan et l'amour, presque, on pourrait dire, que vous avez pour l'homme et son œuvre.
Ben c'est intéressant parce que Saint-Exupéry est très, très critiqué, d'autant plus dans les sphères philosophiques où j'ai fait mes études. Je dirais que Saint-Exupéry est de tous les temps. Et pour moi, c'est une littérature qu'on doit redécouvrir aujourd'hui parce que Saint-Exupéry, on a le sentiment du manque et on a du mal à se dire que peuvent exister des voix qui seraient capables de donner des réponses qui manquent aujourd'hui. Et bien pour moi, Saint-Exupéry en fait partie.
Merci Thomas Fraisse.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage consacré à l'écrivain aviateur français, Saint-Exupéry, l'oasis à conquérir, c'est peut-être celui-là, paru aux éditions Transboréal, un livre qui s'intègre dans une collection Compagnons de route qui compte déjà 9 titres consacrés notamment à Sandra Arkessel, ou plus surprenant, Vysotsky, le chanteur russe dissident. Compagnons de route, c'est aussi le nom de notre série de portraits radiophoniques d'explorateurs et écrivains voyageurs. Allez voir sur notre site rfi.fr, rubrique émission, si loin, si proche, vous vous retrouverez en très bonne compagnie, Joseph Kessel, Jack London, Paul-Émile Victor, Paolo Rumiz ou encore Henri de Monfred, à podcaster assurément. Laura Larry, Céline Develay-Mazurel, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages.